Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, vous avez rendez-vous avec nous. Soirée énervée en deux temps et à deux vitesses. Ça commence dès 18h en podcast avant le passage antenne 22h minuit. Première partie, le meilleur de l'année 2019. Oui, en ce 1er janvier 2020. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année Marion.
Bonne année Laurent.
Ouais, j'espère bien, oui. Deuxième heure des archives extraordinaires.
C'est la convaincue.
De France Inter, complètement, oui. Un peu bourré, oui. Et ce soir, pour ouvrir l'année, portrait de héros. Comment mieux commencer que l'année avec des héros. Entre ombre et lumière, espions et grands reporters. Deux regards, deux pratiques dans un monde au bord du volcan. L'occasion de revenir sur deux émissions qui permettent de mettre en perspective notre histoire contemporaine. Quelle mission et cahier des charges pour l'espionnage d'aujourd'hui et quelle distance garder dans les conflits pour les journalistes tentés de s'engager. Et bien sûr, la musique live de 2019. Pour la première émission de 2020, ce sera...
Un super-héros de la pop anglaise. Il s'appelle Jack Peñate. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas entendu sa voix et il avait choisi le nouveau rendez-vous pour revenir avec un titre de pop gospel en avant-première donc.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. Allez, le NRV, c'est parti, bonne année.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre tout de suite avec la reine inconditionnelle de la pop francophone, la Belge Angèle revient avec cet inédit extrait de la réédition de son album platine, Brawl.
Toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira.
Perdu, signé Angèle. Et oui, on s'était perdu de vue depuis 2019. On se retrouve en 2020 et l'actualité ce soir, c'est espion. Qu'est-ce qui a changé? Où en est l'espionnage au XXIe siècle? Les barbouzes d'hier ont-ils laissé la place à des hackers économiques ultra performants? L'univers du renseignement s'est-il féminisé? Quels enjeux aujourd'hui pour les renseignements généraux restructurés? Toutes ces questions et tellement d'autres. On se les était posées le 11 novembre dernier avec l'ami Christophe Bourseiller. Et nos invités étaient, à l'époque, Rémi Koffer, historien et journaliste. Il signait Les Femmes de l'Ombre chez Perrin. Il y avait aussi Sergueï Girnov, ancien espion du KGB. Et lui, il signait un roman, Pourchassé par le KGB, Naissance d'un espion aux éditions Corpus Delicti. Il y avait aussi Jean Guinel, journaliste, l'auteur de Histoire secrète de la DGSE chez Robert Laffont. Roland Pietrini, ancien agent français, officier de réserve, consultant opérationnel. Son dernier livre avait pour titre Piège au Levant aux éditions Pierre de Taillac. Mais avant de leur donner la parole, place à notre infiltré du énervé, Christophe Bourseiller, c'est l'édito.
Laurent, on est entre nous, hein. Dites-le ce soir. Pour qui roulez-vous, Laurent? Vous êtes toujours en voyage. Je vous vois
chaque soir
bien souvent en compagnie de personnes peu recommandables, au casier bien fourni. Votre parfum est entêtant. Si vous êtes un agent, Laurent, ce n'est pas grave. Car il faut que vous sachiez que le renseignement français aujourd'hui, eh bien sachez-le, il a la cote. Il a été glorifié par la série Le Bureau des Légendes. Il se féminise en un processus irréversible. Enfin, et c'est le principal, il ne souffre plus des scandales passés. Oui, Laurent, au XXe siècle, quand on évoquait le renseignement, on songeait aux barbouzes, à l'affaire Ben Barka, aux combines de la France-Afrique. Aujourd'hui, tout cela paraît bien loin. La rivalité Est-Ouest a fait place à un monde multipolaire. Un pour moi, tous pour moi. Tel est le nouveau credo du monde actuel. Le bonheur quoi? Alors, Jean Guinel, on assiste, dites-vous, dans votre histoire secrète de la DGSE, qui est, je dois dire, farcie de révélation, on assiste, vous dites, à une dédiabolisation du renseignement. Vous le dites au début de votre ouvrage. Que voulez-vous dire par là?
Eh bien, je veux dire que il n'est plus trop impossible pour une personne bien née d'entrer à la DGSE. La DGSE, c'est mon sujet cette fois. Je ne parle pas du renseignement intérieur, je ne parle que du renseignement extérieur. Des gens qui vont à l'extérieur de la France violer les lois des pays étrangers pour récupérer l'information qui n'est pas de l'information ouverte, qui n'est pas de l'information grise, qui est de l'information secrète. Celle qu'il faut voler, celle qu'il faut acheter, celle qu'il faut arracher par des moyens qu'on n'apprend pas vraiment à l'école de la République. Donc, c'est un univers qui est totalement sulfureux, mais qui, depuis une dizaine d'années, est plus ouvert, nécessité faisant loi. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de budget, il y a de plus en plus de besoins, et donc il faut de plus en plus de monde pour assurer ces missions. Et ça, les services ne peuvent le faire qu'en récupérant des gens qu'ils ne récupéraient pas avant, qu'ils ne faisaient pas venir, des ingénieurs des grandes écoles, des informaticiens de très haut niveau. Il faut que la DGSE se batte avec des entreprises extrêmement riches qui ont les moyens d'acquérir les meilleures compétences. Et c'est là qu'elle se bat et c'est pour ça qu'elle doit s'ouvrir.
Alors justement, du côté de l'étranger, Sergueï Girnov, vous êtes journaliste, c'était votre couverture, vous avez été agent du KGB, vous êtes rentré au KGB en 84, c'est ça, dans les années 80?
Oui, 84, oui.
Vous êtes réfugié politique en France depuis 2001, en tout cas oui. C'est la France qui vous a accordé ce statut-là. Vous avez fait partie du KGB, aujourd'hui le FSB, quelle est la différence? On a à peu près le même profil que la DGSE, c'est-à-dire de nouveaux participants, des budgets faramineux?
Déjà, je suis obligé de vous corriger un tout petit peu, parce que le pendant de la DGSE, c'est pas le FSB, c'est le SVR.
C'est le SVR, oui.
Donc c'est le service de renseignement extérieur, qui, oui, il se développe énormément, il a énormément de budget, disons la Russie en général, si vous prenez le budget d'État, c'est 30% qui sont dédiés à l'armée, aux services spéciaux et à la production des armements. Ça veut dire qu'en fait, la Russie, c'est un pays en guerre. Il a un budget d'un pays en guerre. Ça, c'est la différence avec la France. Même avec le dédoublement des budgets de la DGSI et de la DGSE le dernier temps, ou les 10 dernières années, Poutine, il a une longueur d'avance. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que, par exemple, en France, que l'ère des barbouzes est terminée? Je vous regarde en disant ça, Roland Pietrini, non pas que vous soyez un barbouze, mais parce que vous avez été dans le renseignement militaire en action opérationnelle pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé, ou est-ce qu'il y a toujours des opérations entre guillemets discutables?
Bah, je pense que lorsqu'on veut faire des opérations clandestines qui offrent des garanties pour un État à ne pas se mettre en avant et ne pas risquer une découverte et donc de se mettre en difficulté, sans vouloir révéler des choses absolument secrètes, il me semble que l'on pourrait de temps en temps utiliser, je dis ça au conditionnel bien entendu, des officines non officielles qui pourraient prolonger une action menée contre des terroristes, par exemple.
Eh ben, vous dites, Jean Guinel, vous parlez de l'assassinat du leader des Chebab au Mali en 2014, sur ordre de François Hollande.
Oui, c'est-à-dire c'est une opération qui consiste pour la DGSE à trouver le chef des Chebab qui s'appelle Godane, à le trouver et à donner les positions au président de la République. Et le président de la République, François Hollande, dit, eh bien, il a cette formule assez lapidaire, il dit « dégommez-le ». Et la DGSE, à ce moment-là, qui n'a pas les moyens d'agir dans cet endroit, demande aux Américains de s'en charger et il reçoit deux ou trois bombes de 250 kilos sur sa voiture, ce qui a abrégé son existence. Je voudrais juste revenir sur le point des officines qu'évoquait mon voisin tout à l'heure. Je pense que l'action létale de l'État, c'est-à-dire que l'on se donne les moyens soit de mener des actions illégales très graves, soit de tuer, pour moi, c'est une prérogative de l'État. Si ce sont des entreprises privées qui font ça, elles n'ont absolument aucune protection et les gens qui mèneraient ces opérations courraient des risques absolument considérables. Donc pour moi, c'est une action d'État.
Et donc à l'Est, tout le monde a dans sa mémoire Skripal l'année dernière, la tentative de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, parce qu'il ne faut pas oublier, ils étaient deux, à être empoisonnés à Londres.
Avant,
il faudra se souvenir aussi de Litvinenko, Alexandre Litvinenko en 2006.
Bien sûr.
Voilà, donc Poutine a recommencé la belle pratique d'assassinat via les services secrets depuis plus de temps que la DGSE, à mon avis.
Pourquoi Poutine mise autant d'ailleurs sur les services secrets? Parce que véritablement, c'est sa culture.
Oui, c'est sa culture parce que lui, il a vécu, il est vraiment imprégné de la culture soviétique. Ça veut dire que en réalité, l'État soviétique, c'est un État qui ment tout le temps. Et donc, du coup, il part du principe que tous les autres mentent aussi. Et donc, pour Poutine, il n'y a rien que un document secret volé sur la table d'un chef d'État qui raconte vraiment la vérité.
C'est-à-dire que s'il y avait des enquêtes menées, par exemple, par des journaux, ça ne lui servait à rien du tout. Juste une question par rapport à la DGSE. Elle en est où dans son rapport avec l'armée? Parce que pendant des années, il y a eu des relations difficiles, des prérogatives entre les deux.
Alors,
la DGSE menait des actions militaires.
D'abord, elle compte environ 7000 agents, dont 1000 appartenant au service action, qui sont pratiquement tous des militaires. Et à l'intérieur des 6000 qui restent, il y a une proportion de militaires qui est inférieure au quart et qui baisse constamment. Et ces militaires, en proportion, sont remplacés par des civils.
Sergueï Zhirinov.
Et ce qui est très important par rapport à la DGSE, c'est que pendant des années, il a été dirigé par les généraux, par les militaires. Ouais. Maintenant, depuis des années, depuis au moins 15 ans, elle est dirigée par les diplomates.
Elle s'est démilitarisée d'une certaine façon. Alors, j'ai une question aussi à poser peut-être à vous, Roland Pietrini, ou à Jean Guinel, ou à Rémi Coffert. C'est le procès des dirigeants des ciments Lafarge, accusés d'avoir poursuivi leurs activités à un moment où Daesh s'était emparé de la zone où ils étaient.
En Syrie.
Alors, le bruit court que les services français auraient poussé les ciments Lafarge à poursuivre cette activité. Voilà, est-ce que c'est le cas, Jean Guinel?
Ça, je sais pas, ça reste à démontrer, en tout cas.
C'est sûr.
Et de toute façon, la DGSE qui ne travaille qu'à l'extérieur, c'est pas ni un service de sécurité sociale, ni un service de police judiciaire, c'est un service de renseignement. Donc, si des gens français ont des activités dans un territoire contrôlé par Daesh, c'est juste son boulot. Elle est payée pour ça, d'être en contact avec eux. C'est pas à elle de faire de la morale et à dire c'est pas bien.
Non, je pense que les grandes entreprises françaises comme étrangères ont toutes
Roland Pietrini
vocation entre guillemets pour abriter un certain nombre de personnes qui s'intéressent au milieu dans lequel ils vivent. Ça me paraît tout à fait évident.
Donc vous voulez dire qu'il y a des espions dans les civils
Lafarge. On peut citer à une certaine époque Air Liquide par exemple et d'autres entreprises.
Rémi Coffert, vous signez les femmes de l'ombre, mais quelle est leur place véritablement dans le renseignement aujourd'hui?
Je peux compléter ce que disait Guinel tout à l'heure. Il y a effectivement à peu près 7000 le personnel permanent de la DGSE d'à peu près 7000 personnes, dont en gros 30% de femmes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et le processus de féminisation des services de renseignement français a été beaucoup plus tardif, par exemple, que celui des Soviétiques, qui, même de l'époque ancienne...
Sergueï dit non, il n'y avait pas de femme.
Bah, oui, mais malheureusement...
Sergueï Zhirnov, ancien du KGB.
On ne m'a pas laissé expliquer.
Sergueï vous contredira dans quelques instants. Voilà. Continuez.
Ouais. Sauf... longtemps, l'international communiste, le Comintern et les différents services de renseignement soviétiques de l'Union soviétique utilisaient beaucoup de femmes, pas autant que des hommes, mais beaucoup de femmes, mais ça s'est interrompu à peu près au milieu de l'ère Khrouchtchev et ça n'a repris un peu qu'à l'époque de Gorbatchev. Donc effectivement, il y a une longue période de glaciation. Mais dans les temps anciens, moi, mon histoire commence, elle commence, pendant la guerre civile britannique au milieu du XVIIe siècle. Donc c'est une histoire des femmes dans les services secrets qui prend toute la dimension. Et pendant toute une période, les services secrets de l'Est, et en particulier communistes, en particulier soviétiques, pardon, ont utilisé beaucoup de femmes.
Sergueï Zhirnov.
Voilà. Donc pour la Russie, bien évidemment, là, il y avait plusieurs périodes, mais le mythe de femmes soviétiques et communistes travaillant pour les services secrets, c'est un grand, grand, grand mythe. En réalité, il y en avait très peu de femmes. Le seul service qui utilisait les femmes à l'époque, c'était le service des illégaux. Et encore, les femmes étaient la plupart du temps les épouses d'un espion. Et donc, elles étaient en général, en règle générale, soit les opératrices radio, soit les codeurs-décodeurs. Donc, quand j'ai fait mes études dans les années 80, il n'y avait aucune femme dans les écoles du KGB, dans les écoles d'espionnage. Aucune femme, on n'était que des hommes. Et à l'heure actuelle, dans le personnel du SVR, il y a à peu près 25% de femmes, mais ces femmes, c'est quoi? C'est les enseignantes de langue étrangère, c'est les secrétaires, c'est les métiers tout à fait secondaires.
Et pour quelle raison?
Parce que ils sont machos. En Russie, on est macho, on n'a pas confiance en femmes. Femmes peut trahir plus facilement que l'homme.
Dans mon bouquin, je parle beaucoup des femmes dans les réseaux de renseignement de la résistance, que ce soit en 14-18, ce qu'on ignore généralement parce que l'horizon est bouché par le mythe de Matahari, qui était une totale nullité en matière d'espionnage, mais qui fait frétiller les messieurs parce qu'il y a un aspect sexuel. En réalité, il y a eu beaucoup de femmes françaises, belges, résistantes et tout à fait héroïques. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les réseaux de renseignement qui étaient très largement comblés par les femmes, parce que tout simplement, en effectif je veux dire, tout simplement parce que les hommes pouvaient se déplacer moins, et il y avait moins de vigilance à leur égard. Elles ont drôlement trinqué dans les deux cas, 14-18 ou que ce soit 39-45.
Et il y a maintenant une féminisation du renseignement qu'on voit par exemple par le fait que, alors pas tellement en France, mais par le fait que Stella Remington, par exemple, a été directrice du MI6 de 1992, MI5, merci, de 1992 à 1996, que Avril Haines a été numéro 2 de la CIA en 2013, donc c'est vrai qu'il y a une certaine...
Mais la patronne, Gina Espel, la patronne de la CIA à l'heure actuelle, c'est une femme.
Voilà.
Effectivement.
Aucun dirigeant femme féminin en Union soviétique.
Oui, ça on a bien compris.
En France non plus. Vous n'avez aucun directeur des services de renseignement, que ce soit avant la Seconde Guerre mondiale ou après la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez que des messieurs. Donc là, c'est pas...
Il y a une femme qui a été rendue célèbre en France dans les années 1980, c'était Dominique Prieur, oui. Puisqu'elle a été un petit peu mise en lumière par l'affaire Rainbow Warrior. Vous vous souvenez peut-être de ce sabotage du vaisseau Greenpeace Rainbow Warrior à l'époque.
Les faux époux Turange.
Donc c'était notamment Dominique Prieur.
La capitaine Prieur était effectivement une particularité. C'était la première femme officier du service action. Non pas forcément la première femme qui a été mise en jeu par le service action, mais qui avait le statut d'officier. Et on l'a fourvoyé avec le commandant Maffar, on l'a fourvoyé, c'était le gouvernement socialiste de l'époque, dans une opération imbécile, disproportionnée, qui a causé malheureusement la mort d'un photographe portugais, Fernando Pereira. Donc effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que on a gâché cette opportunité que représentait la présence d'une femme officier du service action.
Quels sont aujourd'hui les pays qui ont les services secrets les plus performants?
C'est les plus grands pays. Les États-Unis, la Russie, la Chine.
Israël.
Qui est un petit pays par la taille.
La France est un pays qui met des moyens dans l'espionnage. Quand vous parlez avec des gens qui travaillent dans ces secteurs aujourd'hui, ils vous disent par exemple que ce qu'on appelle le Levant au Moyen-Orient, aujourd'hui, les services très très actifs et très utiles, notamment au plan technique, c'est des services un peu inattendus, les Canadiens et les Allemands.
Et seule l'Amérique est capable de surveiller la planète aujourd'hui ?
Les États-Unis surveillent beaucoup de choses. Ils font énormément de renseignements techniques, mais ils n'ont pas des résultats faramineux. Les attentats de 2001, ils les ont pas vus venir. Et la suite, ils ont eu un appareil de renseignement catastrophique sur le Moyen-Orient au début des années 2000. En Afghanistan, on peut pas dire que ce soit une merveille. Donc, il faut pas mythifier. Ils ont des moyens considérables, mais ils utilisent aussi des méthodes tout à fait condamnables. Par exemple, ils torturent à tour de bras. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, en renseignement humain, ben, beaucoup de pays sont à un bon niveau, mais il faut des moyens. Et en renseignement technique, les Français sont très bons pour une raison très simple, c'est qu'ils ont une excellente université et qu'ils produisent d'excellents mathématiciens, de très très bon niveau. Et ça, pour faire du chiffrement, du déchiffrement, il faut des mathématiciens, des informaticiens, des ingénieurs réseau, voilà. Ça, Roland les Français Pétrini. Sont très bons là-dessus.
Oui, la communauté Pétrini du renseignement en France, c'est 14 000 personnes, 1,4 milliard d'euros. Aux États-Unis, j'ai pas les chiffres en tête du nombre, mais peut-être que Jean pourra le dire, c'est 53 milliards de dollars, dont 10 milliards uniquement pour le CIA. Alors, on ne peut pas résumer non plus un service de renseignement par les moyens uniquement financiers. Nous avons une culture en France qui est une culture intéressante parce que on considère que il faut d'abord être un bon analyste pour être un agent sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un atout extraordinaire.
Ça veut dire quoi être un bon analyste ?
Un bon analyste, ça veut dire comprendre l'histoire d'un pays, comprendre D'accord. la culture d'un pays, pouvoir analyser un certain nombre de domaines autant économiques que politiques, ce qui fait que la personne qui est lâchée ensuite dans le pays, soit comme clandestin, soit comme non-clandestin, a des atouts et maîtrise son sujet. Et ça donne quelque chose, un avantage absolument extraordinaire que n'ont pas forcément les Américains, qu'ont le Mossad, mais pas forcément les Américains.
Rémi Koffer,
Le Mossad est un service plutôt performant. Je consacre dans mon bouquin Les Femmes de l'Ombre un chapitre aux guerrières secrètes d'Israël. Mais naturellement, c'est pas un service qui veut avoir une envergure mondiale. Il est principalement axé sur ce qui est son problème, c'est-à-dire la situation d'Israël au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Donc ça, c'est les grands services sont effectivement le SVR russe actuel, la CIA américaine et le Guangbu chinois dont on parle relativement peu. On se polarise beaucoup sur les Russes et sur Poutine, mais le Guangbu chinois, on peut pas évaluer de manière très très précise, mais c'est par dizaines de milliers le nombre d'agents qui travaillent donc pour le Guangbu chinois. Sachant qu'il y a une douzaine de services de renseignement chinois, ça n'est que l'équivalent de la CIA pour les Américains, du SVR pour les Russes ou de la DGSE pour la France. Donc c'est quand même considérable et je suis toujours surpris que on y accorde moins d'importance, parce que culturellement, on a été habitué au temps de la guerre froide à voir les Américains, les Occidentaux contre les Soviétiques, et ou les services des blocs de l'Est. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un entrant, qui est un entrant de poids depuis plusieurs décennies.
Pardon, une petite précision aussi, c'est que c'est la même chose, on sait un tout petit peu pour les Russes. Ça veut dire qu'en fait, on parle de, par exemple, de chiffres d'officiers de carrière qui travaillent dans les services d'enseignement. On a oublié le GRU, hein. Le GRU, c'est 10 fois plus que
c'est
le SVR,
hein,
c'est le renseignement militaire. Et le truc aussi, c'est que la Russie, c'est un pays totalitaire. Qui reste avec le principe, cette mentalité-là. Et ça veut dire que n'importe quel citoyen russe qui est à l'étranger est potentiellement un espion et peut être, on peut lui demander, l'ambassade peut lui demander de travailler pour un espion. Donc, actuellement, la diaspora russe, c'est entre 5 et 30 millions de Russes à l'étranger. Bah, c'est 30 millions d'espions potentiels à l'étranger. La Chine, c'est la même chose.
En tout cas, moi, il y a une question que je voulais poser peut-être à Jean Guinel. Jean Guinel, votre livre parle de la DGSE, bien sûr, c'est l'histoire secrète de la DGSE, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres services. On l'a entendu un petit peu, là, parce qu'à un moment donné, Laurent Goumard parlait du FSB. Ah non, il y a un autre service. On a parlé du KGB. Ah non, il y avait un autre service, le GRU. Aux États-Unis, on parle de la CIA. Ah non, il y a la NSA. Et finalement, est-ce que la DGSE, c'est pas l'arbre qui pourrait cacher la forêt de différents services de renseignement beaucoup plus discrets?
C'est-à-dire, en France, les questions de renseignement, il faut que les gens s'y intéressent, parce que c'est important. Des services de renseignement en France, il y en a, à vue de nez, il y en a entre 15 et 20. Donc, il y a ceux qu'on appelle ceux du premier cercle, c'est-à-dire ceux qui dépendent du ministère de la Défense, c'est la DGSE, la Direction du Renseignement Militaire et la Direction de la sécurité et de la défense, la DRSD. Vous avez ceux du ministère des Finances, c'est-à-dire celui qui fait la délinquance financière, qui s'appelle TRACFIN, notamment la délinquance internationale. C'est celui auquel sont transmises les données par votre notaire lorsque vous achetez un appartement. Et TRACFIN va regarder d'où vient l'argent, toujours. Vous avez les douanes, très important. Et puis vous avez les services du ministère de l'Intérieur, comme la DGSI. Ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est les six services du premier cercle. Et puis, parmi les six services du premier cercle, le plus puissant parce qu'il est le mieux doté en argent et en moyens, et aussi en capacité technique avec ses centres de calcul et ses, son stockage qu'il appelle le traitement informatique de masse et tout ça, ça c'est la DGSE.
Sergueï Lianov.
Pareil, en Russie, il y en a beaucoup. Mais aux États-Unis, il y en a 17 aussi. La communauté, on parle de la communauté, d'intelligence community aux États-Unis. Et donc, il y a quasiment le ministère de la Finance et son service de renseignement, le ministère de la Défense, etc., etc. Donc, c'est la règle maintenant, oui.
Dans le deuxième cercle, il ne faut pas oublier la cyberdéfense.
Mais c'est ça,
qui est extrêmement important.
Oui, aujourd'hui, c'est même essentiel, tout ce qui est informatique, web,
et
tout ça.
Le commandement des opérations spéciales. Dans mon roman, d'ailleurs, Piège au Levant, je montre les connexions qu'il peut y avoir entre les clandestins et le service action et le commandement des opérations spéciales. Parce que de plus en plus, il y aura forcément une complémentarité. Il ne faut pas oublier que l'enseignement, la finalité du renseignement, c'est tout de même l'action au bout du bout.
Là, je suis pas d'accord, malheureusement. La finalité de l'enseignement, c'est le renseignement, c'est l'information, et c'est la prise de décision, c'est aide à la prise de décision par le chef de l'État ou par le Premier ministre. L'action, en général, c'est quand on est impuissant de faire quoi que ce soit, et donc en fait, l'action, c'est
l'échec.
C'est l'échec de l'information.
Avant de partir sur les grands reporters, merci à nos invités pour cette section espion. Sergueï Lianov, Pourchassé par le KGB, Naissance d'un espion, c'est paru aux éditions Corpus Delicti. Rémi Koffer, Les femmes de l'ombre, c'est chez Perrin. Jean Guinel, Histoire secrète de la DGSE, c'est paru chez Robert Laffont. Et enfin, Roland Pietrini, Piège au Levant, aux éditions Pierre de Taillac. Alors, les espions sont parfois des héros. On en tient un. Une voix de velours à la Marvin Gaye, l'anglais Michael Kiwanuka sur France Inter.
My hero now, my hero, my hero now. I love you like a brother. It's on the music game. I guess they killed another. My hero, my hero now. To die a hero.
c'est le renouveau de la soul anglaise avec Michael Kiwanuka, programmation Jean-Baptiste Audibert pour retrouver un autre héros aujourd'hui disparu, le grand reporter Paul Marchand, un dandy tête brûlée au cœur des conflits, notamment Beyrouth, mais aussi pendant le siège de Sarajevo. C'est son histoire que rejoue le film Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. 25 ans plus tard, retour sur le conflit yougoslave qui, rappelons-le, a fait plus de 100 000 morts à 2 heures de la France et qui reste comme une tache dans l'histoire européenne. On en parlait le 26 novembre dernier avec nos invités, tous passés par Sarajevo. Il y avait Martine Laroche-Joubert, grand reporter à France 2, Éric Biégala, journaliste au service étranger de la rédaction de France Culture, Romain Goupil, cinéaste particulièrement impliqué pendant cette période, Guillaume de Fontenay, bien sûr, le réalisateur de Sympathie pour le diable, qui a pour héros Paul Marchand, ce grand reporter, une figure forte du métier. On retrouve ce personnage justement à Sarajevo pendant le siège, qu'il couvre d'abord en freelance, avant de devenir le correspondant de plusieurs radios internationales. Un Paul Marchand toujours en mouvement, qui compte les morts, qui dénonce inlassablement l'inaction des organisations internationales, avec cette question en suspens, quelle distance garder avec le terrain ? Bande annonce.
Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
Paul Marchand à Sarajevo pour France Info.
Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada.
Paul Marchand à Sarajevo pour RTBF.
Ça va passer tôt ou tard, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas,
vous savez très bien ce qui se passe.
I found a girl for you.
Translator you asked for?
Franzosi, in sudovili ratvet 100 godina.
Putain, ils sont juste en face de l'hôtel.
Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale.
Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien.
Mais comme ça te donne pas, toi, de te faire du fric sur le dos des morts?
Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. T'es pas ici parce que t'aimes ça.
Putain, on n'est pas ici pour parler d'eux, on est ici pour parler d'eux, merde!
Un film qui a gagné 10 prix, c'est cela, hein, oui. De Fontenay. 10 prix.
Absolument.
Bravo, ça sort
dans le dernier mois.
Merci. Tout de suite l'éditorial, Christophe Bourseiller.
Je suis à peine le faire maintenant que je sais que ce film a gagné 10 prix. Vous savez, Laurent, c'est pas seulement l'histoire de la Yougoslavie qui s'est scellée à Sarajevo, c'est aussi l'histoire de l'Europe. On nous répétait comme un mantra qu'avec la construction européenne, il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe et qu'on nous assurait des dizaines et des dizaines d'années de paix et de prospérité. Là-dessus, patatras, la Yougoslavie se démantèle dans le fracas, le sang et les larmes et on voit poindre un scénario hélas bien huilé. D'un côté, les pro-occidentaux appuyés par les frappes de l'OTAN. De l'autre, les pro-russes, c'est-à-dire les Serbes, qui tentent d'imposer leur mainmise. Qui est gentil? Qui est méchant? Tout le monde commet des crimes, même si la palme semble revenir aux Serbes, qui paraissent durablement discrédités par les exactions. Et puis, il y a, Laurent, l'interminable siège de Sarajevo, qui oppose en Bosnie les Serbes orthodoxes et les musulmans. Guillaume de Fontenay, pourquoi raconter en 2019 ce siège incroyablement violent qui marque le recul de la civilisation ?
Parce que je crois qu'il est urgent de se rappeler à l'histoire, que c'est une histoire importante. Et au travers de Paul, qui est un fil d'Ariane qui me permet de...
Paul Marchand, hein,
Paul Marchand, grand reporter. Oui. Paul Marchand, grand reporter, qui me permet de rentrer dans ce siège et au travers de lui de rencontrer et ses collègues journalistes, quelques-uns seulement, malheureusement on est 1h40, cette population aussi avec lesquels ils étaient en contact. Et c'est la particularité de Sarajevo aussi, c'est que les journalistes ont vécu avec la population. Paul y a passé presque 1 an et demi, d'autres y ont passé encore plus de temps. Mais ce rapport, cette proximité avec la population immédiate change la donne, évidemment, d'un point de vue journalistique et d'un point de vue humain. Ce film me semble important parce qu'il nous rappelle notre apathie collective face à des enjeux. On peut se rappeler la Syrie en ce moment, le Yémen, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, partout. Donc il y a une urgence pour moi de rappeler ce cri d'alarme qu'avait Paul à l'époque. Et c'est d'en faire un film à la fois radical, mais aussi humain, parce que le personnage est complexe et il a ses fêlures et il y a aussi une humanité qui se dégage au travers de tout ça qui est très forte.
Vous l'avez connu d'ailleurs, Paul Marchand, Martine Laroche-Joubert.
Oui, j'ai connu Paul Marchand. C'était un personnage qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Hein. C'était une grande gueule, provocateur, souvent agressif, un trompe-la-mort. Il ne portait jamais de gilet pare-balles. Il se moquait des journalistes qui portaient un gilet pare-balles. Et je me souviens, quand il montait, nous, on avait une voiture blindée au bout de quelques mois à Antenne 2, à France 2, et quand il montait à l'arrière de la voiture, il laissait toujours la portière ouverte. Et je me souviens, le caméraman lui disait « Mais enfin, Paul, si on nous tire dessus, à quoi ça sert d'avoir une voiture blindée si tu laisses la porte ouverte ?» Paul rigolait et on laissait la porte ouverte. Voilà. Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui ne se préservait pas. Il prenait l'histoire de Sarajevo, ce qui se passait à Sarajevo, comme sa propre histoire, comme une histoire personnelle. Et c'est en ça que, aussi que ce film est intéressant. C'est pas simplement une histoire des journalistes, c'est d'abord à quoi servent les journalistes, et puis quelles sont les limites, quelles sont les lignes rouges. Éprouver trop d'empathie pour un camp, est-ce que ça fausse le regard?
C'est le problème de Paul Marchand, semble-t-il, puisqu'à un moment donné, il va aider les Bosniaques contre les Serbes. Est-ce que c'est pas sortir de son rôle de journaliste que de faire ça?
Je pense que oui, je pense qu'il franchit une ligne rouge, même si je le comprends. Je comprends qu'à un moment, la situation était tellement inacceptable que, voilà, à un moment, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Je peux le comprendre.
Dans le film, c'est la mort d'un enfant. C'est autour de la mort d'un enfant qui a été tué par un sniper dans un appartement que quelque chose bascule en effet dans le regard qu'il pourrait avoir. Éric Bigala.
Alors, il y a plein de choses effectivement qui peuvent faire basculer. Il y a une autre chose qui est quand même très spécifique au métier, on va dire, et à la situation du correspondant de guerre qui, au contraire, dans l'envoyé spécial, qui reste parfois plusieurs semaines, le correspondant de guerre vit là-bas. C'est-à-dire que très rapidement, les morts ne sont plus des anonymes. C'est pas simplement, ce sont des voisins, ce sont des petites amies, ce sont. Et on a tous, quand on a vécu là-bas, on a tous connu ça. Donc, au bout d'un moment, évidemment, on fait partie complètement de cette histoire. Même si notre rôle, c'est de la chroniquer, c'est de la raconter, c'est de la dire, on y participe d'une manière ou d'une autre. Après, il y a aussi autre chose. Quand on a des blessés qui sont là en face, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les chercher. Des fois, on prend la photo aussi.
Romain Goupil, vous, qu'est-ce que vous faisiez à Sarajevo? Et comment vous avez regardé ce film aujourd'hui?
Déjà, pour le film, j'y étais à reculons en me disant c'est de la fiction, c'est compliqué sur cette situation, sur les drames qu'il y a eu. Et j'ai trouvé le film très bien parce qu'il est justement très sobre. Alors que je pouvais redouter en plus par rapport à ce qu'était Paul et le côté dandy, le côté...
Va-t'en-guerre.
C'était un dandy.
Absolument.
Racontez-nous aux auditeurs qui étaient Paul Marchand.
Il y en avait plusieurs.
Je me souviens, par exemple, la première fois que j'ai vu Paul Marchand, je suis arrivé en août 92, et dans le hall de l'Holiday Inn, donc, qui est décrit dans le film, qu'on voit assez bien, bon, il a été refait. C'était quand même un peu plus crado à l'époque, il n'y avait pas les vitres, etc. Et je vois arriver un type qui avait un canotier, qui avait des super lunettes de marque, une chemise rose Kenzo, un pantalon en cuir, pas en sky, en cuir, et des boots, et avec un gros cigare, il fait « Alors les moulots, on vient à la guerre ?» C'est un personnage.
Vraiment. Et vous, Romain Goupil?
C'était la provocation, comme le dit Martine, permanente, c'est-à-dire faisant. Il s'amusait à descendre en rappel dans le hall de l'hôtel, histoire de frimer, tant qu'à faire. Mais c'était celui qui frimait le plus. À un moment donné, il décide rien de mieux que dans l'avenue Titova de traverser sur un cheval blanc. D'où devenait ce cheval? Comment il était là? Pour bien montrer que tout sniper, non seulement il était la cible et il s'offrait comme cible, en plus à cheval, pas un cheval au galop, au pas. Tout comme ça, tout.
Vous avez tourné où pour ce film?
À Sarajevo.
À Sarajevo même?
Oui, à Sarajevo avec une équipe majoritairement bosnienne.
Ça a posé des problèmes? Il y a eu des tensions?
Non, pas du tout. Oui, il y a eu des permissions qui ont été difficiles à obtenir, par exemple sur l'armement ou des choses comme ça. Ça a été compliqué, mais au contraire, l'équipe bosnienne a été d'une générosité extraordinaire face à ce film et face à leur histoire aussi, puisque c'est
leur histoire qui est racontée.
Chaque personne qui était dans notre équipe, qui avait plus de 30 ans, avait vécu ce siège.
Juste une question pour vous, Martine Laroche-Joubert. Vous étiez aussi à Sarajevo pendant le siège, vous avez couvert le conflit. Comment vos reportages étaient perçus à France 2?
Alors, on avait souvent du mal à faire diffuser nos reportages, tout simplement parce que les téléspectateurs zappaient quand ils voyaient un reportage sur Sarajevo. Je pense que on leur tendait à ce moment-là un miroir peut-être terriblement déformant, des victimes, des bourreaux dans lesquels ils pouvaient peut-être s'identifier d'une certaine manière. Alors, quand je revenais à Paris, les gens me disaient « Mais comment vous osez montrer de telles horreurs aux 20 heures ?» Puis d'ailleurs, on n'y comprend rien dans cette histoire, qui pourtant était finalement assez simple.
Parce que ça, on essayait de faire croire que le conflit était complexe.
Oui, mais en réalité... Non, mais en réalité, Sarajevo, c'était assez simple. Sarajevo était une ville au fond d'une cuvette. Voilà, une ville qui avait connu les Jeux Olympiques en 1984, donc une ville qui n'était pas dans un continent lointain, c'était en effet à 2 heures de Paris, et tout autour, il y avait les Serbes qui bombardaient la ville. Voilà, c'était aussi simple que ça. Bon, et en effet, les réactions étaient hostiles. Les gens ne voulaient pas voir ça. Et donc, on se bagarrait avec nos rédacteurs en chef. Je dois dire que la plupart du temps, on gagnait. Hein. Je finissais par diffuser nos reportages.
Alors, il y a effectivement le siège de Sarajevo, où on peut toujours dire qu'il y avait des bons qui étaient ceux qui étaient assiégés et des méchants qui assiégeaient. Mais plus généralement, quand on prend cette guerre de l'ex-Yougoslavie, la complexité de cette guerre de l'ex-Yougoslavie qui a fait 100 000 morts, 2 millions de réfugiés, on a vu un pays qui a existé pendant des dizaines et des dizaines d'années qui explose subitement. Et là, c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi est-ce que les Serbes deviennent méchants, les Croates sont gentils, les Bosniaques sont charmants, les Slovènes sont indifférents. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de complexité et se dire, et c'est ce que disaient beaucoup de gens à l'époque d'ailleurs, finalement les journalistes, ils ont réussi à faire un camp du bien, un camp du mal. C'est comme au Vietnam, les gentils vietnamiens du Nord, les méchants vietnamiens du Sud, alors que les choses sont peut-être plus compliquées en Yougoslavie.
Alors, Éric Bigala et ensuite Romain Goupil.
Et ouais. Romain Goupil qui ne sera pas d'accord.
Non, je pense qu'on va être assez d'accord avec Romain. En fait, il y avait effectivement deux camps relativement tranché. C'était le camp des nationalistes, parce qu'il y en avait plusieurs, et le camp des autres qui n'étaient pas nationalistes et qui pouvaient être aussi bien musulmans que croates que serbes. Bon, voilà, ça c'était, on va dire, le partage des eaux principal. Mais effectivement, comme c'était une guerre de nationalistes, vous aviez aussi les trois camps qui avaient chacun leur nationaliste, et ces nationalistes s'attaquaient aux deux autres ou pas. Il y avait des alliances de temps en temps entre les nationalistes croates et puis les musulmans. Quand on dit musulman, faut voir un petit peu ce que c'était. Au début, moi, quand j'arrive en 92, je m'aperçois que les gens ne savent pas faire la prière pour les morts, tout simplement, en islam. Là, je le connaissais mieux qu'eux, parce que j'avais fait un peu de reportage au Moyen-Orient avant. Donc, c'était des musulmans par tradition.
On n'a pas l'impression que les nationalistes serbes ont été, parce que c'est ce qu'on lit, par exemple, le tribunal pénal de Yougoslavie qui a fermé en 2017, il y a eu 161 inculpés, majoritairement des serbes. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une... Ils étaient coupables, je n'en doute pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas des coupables aussi du côté, par exemple, des Croates?
Ah oui, des coupables du côté des Croates, ça c'est sûr. Mais, moi, j'ai suivi une histoire dans le petit village d'Amici, où en effet, les Croates ont tué une centaine de personnes dans ce village, c'était des musulmans, et quand on est arrivé, ils nous ont pris dans une embuscade. Enfin, c'était la première fois d'ailleurs que les casques bleus ont réagi contre les Croates, parce que la situation était complètement dingue aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des casques bleus, mais ils n'avaient pas le droit d'intervenir. On les voyait attendre aux checkpoints des heures et des heures, comme ça, alors que nous passions, on comprenait même pas. Ça avait un côté invraisemblable.
On voit très bien dans le film de Guillaume de Fontenay.
Oui.
Romain Goupil.
Le but du pouvoir et le but des commentateurs, c'était de dire c'est complexe pour pas qu'on désigne l'agresseur. Si vous désignez l'agresseur, vous êtes obligé de faire une réaction internationale. Si vous dites ce qu'a empêché Villepin, ce qu'a empêché Mitterrand, qu'il y a un génocide au Rwanda, vous êtes obligé, c'est dans les chartes internationales, d'intervenir. Là, pour un accord entre Major, qui était le dirigeant anglais, l'accord entre Mitterrand, c'est de dire en aucun cas, il ne faut que ce pays éclate, c'est-à-dire explose. Et les communistes, qui étaient la Ligue des communistes serbes, voulaient garder la mainmise à la fin, à la chute du mur de Berlin, voulaient garder la mainmise sur l'ex-Yougoslavie. Mais immédiatement, les Slovènes, les Croates, ceux qui avaient été maintenus dans cette organisation de type communiste, se sont rébellés. Je parle au sein du Parti communiste. Et vous avez dans Suicide d'une nation, le magnifique documentaire qu'on voit. On voit très bien, là, il y a des caméras de surveillance et on enregistre ce qui se passe autour du comité central. Et comment ils vont se battre? Et les Serbes, à un moment, disent, ils se battent plus, ils attaquent la Slovénie, ils attaquent la Croatie. Donc vous pouvez pas mettre sur le même plan ceux qui vont se défendre de manière nationaliste, effectivement, à un projet qui était celui de la Grande Serbie, parce qu'ils ont été cherchés avec des intellectuels pour justifier cette guerre, l'idée qu'il y avait eu la bataille des Merles en 1389, où les Ottomans avaient
fait perdre les Serbes et que maintenant il fallait prendre une revanche historique et que c'était le moment ou jamais. Donc il y a eu une association absolument incompréhensible pour les Parisiens, encore que ils ont fait semblant de pas comprendre, entre les communistes et les nationalistes. Et c'est le truc le pire. Ce qui se passe en Yougoslavie annonce le pire avenir. C'est-à-dire la 5 étoiles. C'est-à-dire tous ces trucs entre nationalistes, cet accord entre les Marine Le Pen et les Mélenchon.
Et c'est là que vous vous unissez à BHL, à Bernard-Henri Lévy, et que vous participez à une liste aux élections européennes. L'Europe commence à Sarajevo.
L'Europe commence, ou était en train de se terminer, en train d'être massacrée. Cette utopie incroyable qui est, après la Seconde Guerre mondiale, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait tous les peuples avancent dans cette direction-là, en se réconciliant, c'est le coup d'arrêt et le massacre qu'il y a à Sarajevo et le début de la fin de cette idée. C'est pour ça qu'on va se battre tous en disant si on arrive à une paix, si on arrive à une intervention à Sarajevo, l'Europe commencera ou continuera à Sarajevo.
Mathilde Roche-Joubert, à quel moment vous êtes partie justement, vous, de ce conflit ?
Moi, je suis partie en avril 93. Voilà, j'ai été légèrement blessée, voilà, et je suis partie à ce moment-là. La première fois que j'y suis allée, c'était en juin 1992. C'était le tout début, et à ce moment-là, l'aéroport était même fermé. Hein, les Serbes tenaient tout, ils encerclaient la ville. Et moi, j'ai pu rentrer grâce à une jeune femme qui travaillait pour Pharmaciens sans frontières, qui s'appelait Isabelle Achour. Elle a parlementé pendant une semaine avec les Serbes pour qu'ils nous laissent rentrer. Et puis un soir, les Serbes nous ont dit « Allez-y. Et c'est vrai qu'on est rentré dans l'enfer absolu. Les obus, à ce moment-là, tombaient toutes les 30 secondes. Le général Mladic avait dit « bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous ». Et on comprenait vraiment ce que cela voulait dire. L'hôtel Holiday Inn, le fameux hôtel où on voit Paul Marchand, n'était pas ouvert à ce moment-là, donc on était chez l'habitant. Et en même temps, Sarajevo, c'est un journaliste du New York Times qui a dit ça. En même temps, Sarajevo, c'était un rêve de journaliste. Parce que il y avait une unité, en effet, de lieu, une unité d'action. On trouvait tous les jours de nouvelles histoires, même si je maintiens que quelquefois à Paris, il rechignait un peu à les passer. Mais on trouvait toujours des histoires extraordinaires. Je me souviens d'un professeur de géographie, par exemple, qui était devenu sniper et qui, dans les décombres de sa propre université, tirait sur d'anciens collègues et d'anciens élèves. Je me souviens de jeunes... Oui, je me souviens de jeunes de 17 ans, des jeunes de 17 ans qui allaient à une boum sur la ligne de front. Ils arrivaient comme ça en courant, courbés sous les tirs, pour entendre du Michael Jackson avec un générateur. Des histoires comme ça, je me souviens.
Au cinéma Oradnik, tu y allais sous les tirs des snipers.
Exactement. C'était des histoires comme ça extraordinaires. Je me souviens d'un prêtre aussi qui partait en vélo pour aller bénir des maisons aussi qui étaient bombardées sur la ligne de front. Voilà. Et des histoires comme ça, on en trouvait tous les jours. C'est en ça aussi que c'était un rêve de journaliste.
Martine Laroche-Joubert, quelle est la situation politique aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie ?
Ils ont fait un système assez complexe, un triumvirat, c'est-à-dire il y a à la fois un président croate, un président serbe et un président bosnien.
C'est le truc le plus complexe que vous pouvez imaginer.
C'est très complexe.
C'est
une fédération peut-être plutôt. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'y suis pas revenue. Je lis aussi des articles étranges que maintenant c'est une destination touristique pour les émirs du Golfe. Je ne sais pas si vous avez vu ça vous là-bas,
Guillaume
en tournant.
Oui, je l'ai vu. C'est malheureux parce que aujourd'hui, c'est l'exacerbation de l'identité religieuse qui prime. Et je pense que l'Europe doit réagir et se réinvestir en Bosnie et dans ces pays qu'on a laissés pendant la guerre à l'abandon et qu'on laisse toujours à l'abandon. Bah, la misère engendre la misère et engendre le nationalisme, engendre des gens qui, en effet, parce que pendant que l'Europe se retire de ce pays, évidemment, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie investissent. Et quand on parle de misère, on parle de se retrouver une famille et éventuellement la famille peut devenir religieuse. Et donc, c'est très grave. Moi, ce que j'ai rencontré à Sarajevo, c'est des gens qui ne sont absolument pas religieux. Ils ne sont pas plus musulmans et que nous sommes catholiques.
Vous voulez dire que maintenant, ça a évolué, que maintenant, il y a un phénomène de confessionnalisation, de communautarisme, pour reprendre un terme français?
Malheureusement, il y a certaines personnes qui le sont. Et je crois qu'il faut absolument lutter contre ça parce que la majorité ne le sont pas. Éric Bigala?
Moi, je reste pas totalement pessimiste. Alors, c'est vrai que la Bosnie-Herzégovine, ça ressemble à rien comme pays. C'est gros comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, c'est 4 millions d'habitants. Là-dedans, vous avez 180 ministres. Vous avez une présidence tricéphale. Dans chaque obština, c'est-à-dire dans chaque commune, vous avez trois maires. Un croate, un bosnien, c'est-à-dire un musulman, on va dire, et un serbe. Quand celui-ci daigne venir, mais enfin, quand il daigne pas venir, il a toujours un petit représentant, etc., histoire de pouvoir foutre la merde pour être vraiment... Enfin, bref, ça ne va pas, ce pays ne produit rien, ne construit rien. Sur l'islam, quand même, faut bien voir que... Alors, certes, il y a eu une espèce de mainmise de toutes les organisations soi-disant humanitaires qui venaient, enfin, qui sont là pour mettre en place un certain wahhabisme plus ou moins inféodé à l'Arabie Saoudite. Ils sont là. Est-ce qu'ils ont vraiment du succès en Bosnie-Herzégovine? Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Non. À chaque fois que les femmes se sont retrouvées complètement voilées, elles se font moquer par leurs coreligionnaires. Et quand je dis coreligionnaires, ce sont les autres musulmanes. Moi, je me souviens des premières réunions du parti d'Action démocratique, donc qui était le parti musulman, on va dire, d'Izetbegovic, après-guerre. Hein. Alors effectivement, ils étaient tous en vert. Enfin, toutes les nanas étaient en mini-jupe et il n'y en avait pas une voilée. Ça a quand même pas grand chose à voir avec l'islamisme. Et ça existe toujours.
Guillaume de Fontenay?
Ben, sur le tournage, je peux dire que nous, on a passé, par exemple, 3 mois à préparer et à tourner ce film à Sarajevo en 2018. Et jamais on a arrêté de travailler pour la prière ou pour quoi que ce soit. Il y a vraiment, je n'ai jamais vu de pression religieuse autour de notre tournage, autour de nous. D'aucune façon, ils sont aussi musulmans que nous sommes cathos.
Pour cette émission Grand Reporter, on recevait Martine Laroche-Houbert, son livre Une femme au front est paru aux éditions Cherche Midi, Guillaume de Fontenay, le réalisateur, le film Sympathie pour le diable est toujours en salle. Je signale aussi la formidable réédition du livre de Paul Marchand, Sympathie pour le diable chez Stock. Et on recevait bien sûr Romain Goupil. All right, let's
have a little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Paul Marchand écoutait les Rolling Stones quand il était dans le siège de Sarajevo, à fond la caisse dans sa voiture. Et vous, Marion Guilbeault ?
Eh ben moi, j'ai rendez-vous là. On a rendez-vous ce soir avec un personnage comme on peut en trouver qu'en Angleterre. C'est le genre d'artiste qui maîtrise parfaitement les bases du rock et de la soul, mais comme son compatriote Damon Albarn, il a besoin d'aller prendre l'air un peu du côté de l'afro-jazz éthiopien ou alors de la musique populaire brésilienne, bref, tout ce qui peut le sortir un peu de la routine. Alors cet automne, Jack Peñate, c'est lui, sortait de 10 ans de silence, de voyage et de réflexion pour revenir avec un grand mix entre sa musique de cœur, la pop, et les méthodes du rap. Il a travaillé avec Inflow, c'est le jeune producteur qui monte, le son de Michael Kiwanuka, de Jungle, de Little Sims, c'est lui. Mais pour son live, dans le nouveau rendez-vous, Jack Peñate avait choisi l'acoustique avec ce titre en avant-première. I got lost, trying to be what I'm not. Thought it'd bring me peace, devil is a thief. Prayer, I got caught, prayer, trying to be a boss. Prayer, I felt hate, prayer, didn't recognize my face. Prayer. See what you come for. You are down for. All these lives we've been. Only freedom when you hide. Think we know who we are, counting of our scars. See myself and I know, I know, I know, I know, I know I got to change. I see myself and I know, I know, I know, I know. Everything I've been. Hey! Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you hide from me? When I need a little prayer. I need a little prayer now.
Need a little prayer.
Prayer, c'est le gospel pop de Jack Peñate, accompagné par Serena Prince et Telila Daniel au cœur. C'est un extrait de After You, son nouvel album.
Merci Marion Guilbault. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite France Inter Plus. Mais demain 2 janvier.
Regarde à la couleur de soleil.
Ah, c'est du petit lait ça.
J'aurais préféré du champagne, mais le vin sera au programme du NRV demain pour fêter la nouvelle année. L'occasion de revenir sur le monde agricole entre malaise et mutation. Le NRV, c'est Marion Lelay et Juliette Medevielle à la réalisation, programmation, préparation, Christophe Bourseiller, Virginie Rouzic, Adrien Nazelli et Clémence Diligent.
Rendez-vous.